Culture et patrimoine.
Une émission présentée par Christelle de Limerville.
Notre émission Art, Culture et Patrimoine nous permet de rencontrer souvent des artistes, des artisans d'art, en tout cas des passionnés qui nous ouvrent leur atelier. Et c'est notre chance aujourd'hui, car nous sommes à l'atelier d'ébénisterie de Henri Collet, spécialisé dans la restauration, à Saint-Denis d'Anjou. Bonjour Henri Collet.
Bonjour chère madame, et merci à Radio Fidélité de venir nous saluer pour faire connaissance.
Ben oui, c'est tout un monde que l'on découvre. Vous êtes jeune, père de famille, vous avez repris l'entreprise familiale, mais dans des circonstances étonnantes. Racontez-nous, vous avez quand même grandi dans l'atelier de votre père.
Oui, en effet. C'est touchant d'ailleurs parce que la maison Collet est issue du fief de Château-Gontier avant de venir s'installer à Saint-Denis d'Anjou entre les deux guerres, puisque mes grands-parents y étaient installés comme brocanteurs antiquaires. Et mes parents sont arrivés ici, se sont installés, mon père après son Algérie, et ils se sont installés comme artisans, ébénistes, restaurateurs, mais aussi comme marchands antiquaires. Donc je suis né dans les antiquités, dans les brocantes, mais dans les copeaux surtout. Dans les copeaux et dans tous ces beaux bois exotiques et ces meubles de style. Je les remercie d'ailleurs beaucoup, puisque j'ai eu la chance de rentrer en 1979 jusqu'en 1982, être un apprenti de la maison, lauréat d'ailleurs d'un prix national de la formation. C'était le début des prix donnés aux jeunes apprentis par l'intermédiaire de la SEMA, la Société d'encouragement aux métiers d'art. Et puis ensuite, le départ. Le départ dans la capitale, 15 années à Paris, chez un artisan qui s'appelait Michel Germont, qui était expert à la cour d'appel.
Il était expert en objets d'art en ou mobilier, en meubles
mobilier, ah, mobilier. Mobilier, meubles et sièges, 17 et 18e siècle, c'était un peu l'atelier phare. Nous avons le privilège de travailler pour des institutions, pour le château de Versailles, pour le château de Compiègne, pour Fontainebleau, pour le musée de la Légion d'honneur, le Grand Palais, le Petit Palais également, les collections intéressantes, et etc., etc. Et pendant toutes ces années, je me suis nourri. Je me suis nourri de jolis meubles, de jolis sièges. Une façon de voir la restauration, de l'approcher, puisque ébéniste, c'est une chose, restaurateur, c'en est une autre. Vous avez quand même une philosophie de l'approche à avoir. Où commencer, où s'arrêter? C'est respecter. Et respecter un meuble, on en parlera un peu plus tard, mais c'est aussi aller vers l'expertise. Quand on préserve un meuble, c'est qu'on le préserve de son authenticité. C'est important.
Vous êtes aussi maintenant expert, et vous pouvez donc analyser un meuble en voyant ses différentes restaurations ou pas. Oui. Et c'est ça qui donnera toute la valeur aussi à ce meuble.
Écoutez, ça en fera partie, parce que quand on respecte complètement, parfaitement un meuble qui nous est confié, et quand on le restitue, il faut que notre intervention soit, pour ainsi dire, le moins visible possible. Mmh. Alors nous avons des cas où c'est assez délicat, puisque nous avons ce qu'on appelle des conditions de moyens, qui sont des devis établis, auprès de certains propriétaires ou auprès de certaines institutions. Et puis, vous en avez d'autres qui vous demandent une proposition rigoureuse qui peut aller vers l'étude scientifique de certains matériaux, de bronze, étude dendrochronologique pour la datation des bois, l'étude de la xylologie également, ça nous arrive pour les donner les essences justes des bois en fonction des périodes. Et de temps en temps, auprès de certains laboratoires, nous travaillons la stratigraphie, qui sont des études liées aux pigments, aux différentes couches picturales sur un bois doré, même si ce n'est pas notre spécialité. Mais tout ça, ça ne se fait pas seul, ça se fait toujours avec une équipe. Et on prend soin de s'entourer de gens compétents, professionnels, et dont la déontologie est pour ainsi dire irréprochable. Ça fait partie de l'expertise dite fondamentale.
Voilà. Et alors, on fait appel à vous pour une expertise fondamentale quand un meuble, par exemple, est estimé extrêmement cher, ou quand quelqu'un achète un beau meuble et veut savoir si vraiment il a de la valeur. À quel moment on appelle l'expert?
Alors, en général, on m'appelle en tant que conseil avant acquisition. Pour des collectionneurs ou des amateurs privés. Et donc, je leur donne mon point de vue. Alors, naturellement, ce n'est pas toujours à côté, mais je dois avouer que j'ai le privilège et la reconnaissance de la salle des ventes de nos confrères Lavallois, Maître Nugue et Maître Drouel, avec lesquels je collabore et qui m'accordent une totale confiance, voire de temps en temps rapporter dans mon atelier un meuble ou un siège pour en définir le bon regard. Alors, on voyage aussi, on bouge. Notre clientèle est essentiellement française, mais elle est aussi étrangère.
Bah oui.
Et nous avons eu d'ailleurs des aventures très intéressantes. C'est un autre sujet, nous pourrions en parler, mais une très grande artisan qui habite la Mayenne, qui s'appelle Isabelle de Marseul, est restauratrice de lac. Elle a été reçue meilleure ouvrière de France il y a une vingtaine d'années, et nous avons travaillé en collaboration ensemble sur un piano du Second Empire, de la maison Linck et Swiner. Donc nous avions un travail de restitution, de restauration qui devait être parfait. Et Madame de Marseul s'est occupée de la laque. Et ce micro me permet de lui dire encore toute ma reconnaissance et, pour son talent voué qu'elle a et qu'elle avait mis en avant pour ce travail exemplaire. Donc, nous travaillons avec des collaborateurs dans d'autres spécialités. Le bois doré aussi. À quelques kilomètres, nous avons une consoeur qui s'appelle Laure Plot, qui travaille très bien le bois doré, qui travaille très bien la colle de peau de lapin pour les pigments, pour la restauration des sièges. Les sièges sont bien souvent peints au 18e. C'est une autre spécialité de la restauration. Hein. C'est un travail de menuiserie. Et donc, ces sièges, après des garnissages, puisque ça, ce n'est pas notre spécialité, c'est confié, ça passe dans nos ateliers, c'est démonté, remonté dans les règles de l'art, et ensuite les couleurs doivent être reprises comme elles se doivent. Et cette personne est très douée.
Oui, donc il y a quantité de métiers autour de la restauration. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on disait ébénisterie. Ça vient donc du mot ébène, mais
oui.
Pour quelle raison?
Oui, ce sont les menuisiers de la Petite Cognée. Vous aviez Grande Cognée, Petite Cognée, qui étaient les menuisiers qui venaient d'Allemagne. Grande Cognée étaient les artisans qui travaillaient, on va dire, les travaux de hauteur, et Petite Cognée, les travaux d'intérieur. Et les premiers artisans qui travaillaient pour la cour, d'ailleurs, notre roi Louis XIII, on va dire, et pour certains de la période Louis XIV, le mobilier d'ébène. Et c'est, l'étymologie de ce mot vient donc de ce bois dont vous me parliez tout de suite, l'ébène, ébéniste, ébénisterie.
Ah oui, donc c'est assez récent comme...
Ça, c'est une appellation 304, du XVIIe siècle.
XVIIe siècle, oui.
Voilà.
Alors, vous restaurez essentiellement donc, des meubles,
des
fauteuils?
Oui.
Essentiellement?
Essentiellement. La menuiserie en siège, c'est une passion que j'ai. On restaure, on a eu des sièges très importants, des sièges historiques avec des provenances royales, bois doré, bois peint, estampilles prestigieuses, Jacob, Jean-Baptiste Tilliard, Nicolas Heurtaud, les grands maîtres, Jean-Baptiste Séné. Et on continue. On se doit de respecter ce qu'on nous confie. Donc un grand meuble, aussi parfait qu'il doit l'être, nous devons l'être également. Petit meuble également. Issu de la menuiserie en siège, le mobilier est essentiellement traité dans notre atelier, puisqu'on y travaille le meuble en bois naturel, mais aussi les meubles en bois de marqueterie, décorés de marqueterie, de bois de plaquage, et parfois de marqueterie dite boule, qui sont des découpes successives d'éléments métaux, qui peuvent être l'étain et le laiton, avec des feuilles d'ébène, parfois de l'écaille de tortue, parfois de la corne animale qui est teintée. Ces éléments formés nous permettent et permettaient aux artisans d'autrefois de réaliser des décors que l'on appelait l'intarsia incastro, donc en superposé. Et aujourd'hui, depuis 250 ans, toutes ces marqueteries qui ont subi des variations hygrométriques qui leur ont permis de vieillir dans un contexte qui n'est pas forcément le meilleur, viennent à nous. Donc on se doit de déposer partiellement certains éléments, de soulever parfois certains éléments pour y injecter des colles qui sont des colles animales qu'on utilise, des bases à colles de poisson, des bases à colles à base de colles de nerf, d'os, mélangées, quelquefois agrémentées d'un pigment ou d'autres produits pour des raisons de viscosité. Tous ces éléments doivent rentrer dans la réflexion du restaurateur.
C'est très surprenant. Nous avons fait le tour, bien sûr, de tous les beaux meubles de votre atelier qui comporte plusieurs pièces. Et alors, je découvre que l'écaille de tortue, que l'on ne trouve plus maintenant, hein, bien sûr, a une transparence qui fait qu'on peint sous, on met une couleur sous l'écaille de tortue. Et du coup, on a ce matériau coloré, moiré. Il y a une transparence que j'ignorais complètement.
Et oui, tout à fait. C'est la translucidité que l'on donne sur une écaille de tortue. Alors, sachez qu'avec la Convention de Washington, nous n'avons plus le droit d'utiliser l'écaille de tortue. C'est un décret qui est difficile. En tant que restaurateur, aujourd'hui, nous utilisons de la fausse écaille, qu'on appelle de l'acétate de cellulose. Et parfois, vraiment, puisque j'ai quelques petits morceaux de récupération d'éventail ou de peigne ou autre qu'on utilise, pour certains petits morceaux, nous arrivons à encore l'utiliser. Mais nous avons le numéro d'agrément auprès du ministère de l'Environnement qui nous permet d'utiliser ces toutes petites quantités. Et on ne trouve plus sur le marché de l'écaille brute proprement dite. On a créé des fermes à la Martinique pour exploiter la tortue. Et puis ces fermes ont été fermées. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut complètement oublier.
Et pourquoi est-ce qu'on utilise l'écaille de tortue? Quelles sont les vertus de l'écaille?
Les vertus, c'est surtout la transparence dont vous parliez. Préparer une écaille de tortue, la laminer, c'est-à-dire la mettre à peu près à 15 dixièmes d'épaisseur, 1,5 mm, on arrive à avoir une couleur légèrement rougeâtre et colorer cette écaille à base de pigments, des fois de charbon de bois pilé, de briques pilées pour les colorants rouges, des vermillons qui sont des couleurs naturelles aussi qui nous permettaient et qui nous permettent toujours encore aujourd'hui de remettre et de restituer les éléments manquants avec ces colorants. Donc, matériaux naturels sont toujours présents dans notre atelier, même si nous utilisons cet acétate de cellulose, qui est une résine qu'on arrive à étaler à plat, un peu comme un film plastique sur une trentaine, quarantaine de centimètres au carré, ce qui est quand même pas négligeable, que nous colorons nous-mêmes avec des fausses taches, et dessous, on arrive à récupérer, à refaire une couleur quasiment identique à ce qui existait au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Et on dit que ça ne pourrit jamais, c'est imputrescible, la tortue.
L'écaille de tortue, oui, aucun problème. Non, les bois, certains bois sont imputrescibles, les bois exotiques, mais l'écaille, même chemin. Je n'ai jamais vu une écaille de tortue percée par des petites vrillettes ou des petits vers. Jamais, jamais, jamais. C'est une matière, d'ailleurs, qui se soude. Sachez que c'est une matière organique, qui est vivante et à chaud température, en réalisant des petits biseaux, puisque vous avez un lunetier en France qui, lui, a habilité, en fait, récupère le moindre petit morceau d'écaille, il arrive à les souder, et ça se régénère. Et c'est formidable.
En fait, c'est toujours vivant, alors.
Oui, oui, les cellules de l'écaille peuvent être soudées, et ça fonctionne. Voilà, ça c'est pour l'écaille de tortue. Alors on travaille aussi la corne de buffle, la corne animale est utilisée en transparence de la même façon, avec des pigments qui sont bien souvent verts, bleus, jaunes, rouges. Ça nous arrive. On a eu des décors d'époque Louis XIV sur certains meubles, utilisés par transparence avec des pigments naturels, toujours mélangés avec des cols animales, donc os de nerf et cols de poisson également. Ça, c'est fait partie des marqueteries. Et pour parler du temps, si vous voulez qu'on en parle, du temps qu'on peut passer sur certains meubles. Ça nous est arrivé de passer l'année dernière sur un cabinet près de 600 heures de restauration, sur une paire, une commode à peu près 380 heures à 400 heures. Sur une autre paire, plus de 600 d'époque Louis XIV, pour le cabinet, c'était un meuble magnifique, d'ailleurs attribué à Pierre Gaulle, un meuble acheté par un de mes clients, un prix très important. Et nous avions d'ailleurs constitué toute une équipe de restaurateurs autour, afin de réaliser un peu un passeport, parce que ce meuble, un jour, aura des héritiers, et je pense que les héritiers auront besoin de savoir ce qui s'est passé. Et pour une succession et pour une revente possible, parce que c'était un meuble qui avait quand même été acheté 1 million d'euros, il lui fallait un passeport, on va dire, quasiment irréprochable. Ça, c'est un des cas exceptionnels, mais ça nous est arrivé. Récemment, on a encore eu un cabinet d'ébène pour un professionnel de l'art très intéressant, pour lequel on a réaliser un dossier d'une trentaine de pages, d'ailleurs avec une jeune femme que vous pourrez interviewer qui s'appelle Aglaé Losfeld, qui sort de l'école Boulle et qui est dans nos murs pour une année de formation supplémentaire en espérant qu'elle puisse rester avec nous. Voilà.
Oui, donc c'est toujours le temps compte aussi énormément dans la restauration, bien sûr. Et vous avez combien de salariés maintenant, Henri Collet ?
Alors écoutez, 3 salariés, 3,5 allons-nous dire. Yvan Berthelot, qui a 18 ans d'atelier, qui est issu de l'école Boulle. Yann Laclar, qui a 14 ans d'atelier, qui est issu du terrain, on va dire, qui a une formation par un de mes confrères Rochelet qui me l'a envoyé dans mon atelier. Aglaé Losfeld, qui sort, elle, de l'école Boulle. Et j'ai mon frère, Christian Collet, qui était associé, qui vient nous aider pour des petits décapages, des petits nettoyages mineurs, et puis qui classe toute la documentation. Ça, c'est important, parce que dans l'expertise, on a besoin de classer des catalogues de vente, des photos, des sièges, une nomenclature très précise des artisans du 18e, des menuisiers en sièges. Et nous avons à peu près 30 000 photos de meubles et sièges classés dans des classeurs, tout simplement. Ça, c'est un gros travail supplémentaire. Thank you.
Vous êtes toujours sur Fidélité Mayenne et je continue notre rencontre avec Henri Collet dans son atelier d'ébénisterie de Saint-Denis-d'Anjou. Là, nous vous entrons dans la première pièce de l'atelier, parce qu'il y en a plusieurs. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait là ?
Alors en effet, ça c'est l'antre, on va dire. C'est l'antre parce que c'est une pièce dans laquelle j'ai fait mon apprentissage de 1979 à 1982. Donc il y a toujours des odeurs. Et toutes ces odeurs, je les ai toujours gardées. Voilà, oui. Mon père avait son établi là, il y avait deux personnes, deux salariés et moi en formation. Et depuis, la pièce a été, on va dire, modelée un petit peu. Mais c'est toujours le même atelier.
Oui, ça sent la colle, ça sent le bois, ça sent évidemment. Mais
aussi, également, puisqu'il y a une petite scie à côté, une petite scie mécanique, un des rares outils qu'on a dans l'atelier. Qu'on utilise donc mécaniquement, la scie à ruban, mais ce qui donne des odeurs. Mmh, voilà, ça c'est la première. Or là maintenant, on va passer dans un autre local, ici juste à côté dans l'autre local, où nous allons faire connaissance avec trois personnes qui sont dans notre atelier. Et comme nous sommes dans la courtoisie, la première personne que je vais vous présenter, c'est Aglaé Losfeld.
Bonjour.
Dont je vous parlais tout à l'heure. Aglaé sort de l'école Boulle, elle est en formation dans notre atelier. Elle est passionnée, elle a choisi ce métier parce qu'elle en avait la sensibilité. Elle travaille avec deux autres personnes qui sont Yvan Berthelot. Yvan est avec nous aujourd'hui. Yann Laclar a dû, pour des raisons diverses, s'absenter. Yvan est issu aussi de l'école Boulle. Il est arrivé, lui, il y a 18 ans dans notre atelier.
Alors Aglaé, par exemple, fait quoi là en ce moment ? C'est la restauration du bureau à cylindre.
Voilà. Oui. Qui est de la fin du XVIIIe siècle, qui est en acajou, plaquage d'acajou. Et là, elle travaille actuellement sur le serre-papier, c'est-à-dire le petit caisson qui vient à l'intérieur, qui reçoit les tiroirs. Il y a des petits éclats, des petits manques au plaquage qu'elle va compléter, donc avec des bois, des bonnes essences. En général, des bois de plaquage anciens que nous remettons dessus. Et puis, avant de s'occuper donc de ce serre-papier, la partie ébénisterie proprement dite, support, fonctionnement, c'est-à-dire revue des tiroirs pour un bon coulissage, un bon fonctionnement.
Ah oui, oui.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'ébénisterie de fond. Ensuite, il y a une tirette manquante, donc Aglaé a repris des planches anciennes qu'elle a débitées, qu'elle a usinées, qu'elle a mis à l'épaisseur pour un travail, on va dire, au départ mécanique, mais ensuite qui est complètement repris à la main. Donc elle a des outils manuels, rabots, des varlopes. Elle a utilisé des bouvets, un bouvet à deux pièces qui permet de faire des rainures et languettes à la main. Pour se familiariser donc avec ces techniques anciennes et qui sont toujours avec nous. D'ailleurs, dans l'atelier, si vous levez les yeux, vous verrez que sur trois rangs d'étagères, vous avez des bouvets de pièces, des bouvets à plate-bande, des bouvets à moulure, des rabots ronds, des rabots cintrés, des bouvets arénés, double bouvets arénés. Et tout ça, ces outils-là, eh bien, de temps en temps, on en a besoin et on les utilise. Et dans notre spécialité dans la restauration, pour être un bon restaurateur, il faut être un bon ébéniste. On est assez exigeant, puisqu'ici, le travail manuel est réalisé à 90% des cas, et il faut savoir les utiliser. Le travail du bois, c'est une chose essentielle, et les outils, la même chose.
Alors là, par exemple, je vois sur cette petite table, il y a j'appelle ça des serre-joints, mais c'est pas ça, si ?
Si, ce sont des tout petits serre-joints. Ben, on va laisser M. Berthelot, qui va vous en parler.
Oui, alors racontez, M. Berthelot, ce que vous faites, là.
Là, je suis en train de recoller sur une petite table du 18e tout le plaquage qui se soulève. Je reglisse de la colle, une colle à chaud, une colle animale faite d'os et de nerfs. Mmh. Et après, avec des cales à chaud, je resserre à l'aide de serre-joints, je resserre pour bien maintenir le plaquage sur place, sur le bâti.
Donc vous avez défait complètement le plaquage ?
Non, je fais juste des recollages partiels, simplement.
Ah oui, des retouches, en fait.
Voilà. Là, il n'y avait pas besoin, on n'a pas besoin de tout déposer. On dépose vraiment quand c'est nécessaire.
Et c'était quoi comme bois de plaquage ?
Là, c'est du bois de rose.
Un peu jaune comme ça
Un petit peu jaune, c'est le vernis qui a fait jaunir un petit peu le plaquage. Mais après, elle va être décapée, puis on repartira une petite finition en vernis au tampon.
Et derrière vous, cette armoire toute brillante, là, on dirait c'est de l'or.
Là, elle brille un petit peu. C'est avec un mélange de bois de rose et de bois de satiné. Une petite armoire 18e, faite au vernis gomme-laque.
Là, elle est entièrement terminée. Vous avez terminé votre gomme-laque?
Quasiment. Quasiment, là. Je vais faire une petite retouche juste pour éclaircir un peu mon vernis, pour la phase finale du vernis. Enlever toute l'huile qui nous sert à déposer le vernis. Et puis après, ça va être terminé.
Et là, c'est quoi comme bois ?
En bois de rose et bois de satiné.
Là aussi ?
Oui.
Ah, ouais, et le bois de rose est assez jaune, alors, à la base ? Oui. Pour moi, c'était rose, le bois de rose.
Ce sont des appellations commerciales, hein, du XVIIIe siècle. Hein. Ouais. Et nous avons un ouvrage qui s'appelle Le Roubaud, de 1772, qui parle très bien et qui définit beaucoup tous les bois exotiques ou les bois indigènes utilisés déjà dans cette période.
Et après, quel est votre prochain travail alors ?
Là, j'ai deux petites tables. Oui. Et puis, j'ai fait aussi une jardinière en même temps. Une jardinière, pareil, de 18e. Et puis, donc avec beaucoup de bronze. C'était une ancienne boîte à musique qui a été transformée en jardinière, on va dire.
C'est-à-dire, on met des pots de fleurs dedans
Ça peut être mis avec des pots de fleurs. Il y a une partie en zinc qui a été rajoutée après. Mmh. Et celle-ci est en acajou.
Et alors, une autre...
Voilà des éléments dont il vous parlait, Monsieur Berthelot. Qui vient sur les côtés, c'est une boîte à musique qui est remarquable de qualité, avec des bronzes dorés, qui sont dorés au feu, dorés au mercure, avec le fond de platine et les usures que l'on devine, et les bronzes en rapport, fixés, on le voit dessous, avec des petits écrous, des petites vis, qui sont, eux, dorés avec ce qu'on appelle des mats et des brunis, on voit bien dans les reliefs de décor, et ce sont dites des décors au feu, c'est-à-dire que c'est une dorure au mercure.
Tout ce qu'il y a. Voilà. Et les marqueteries très fines, très petites, vous le faites aussi ?
Oui. Tout à fait. Oui.
Donc un ébéniste sait tout faire dans un meuble. Autant le gros travail de planche que
support.
Le travail très fin
oui,
de finition, c'est
oui,
ça
bien sûr. Ouais. D'ailleurs, on utilise un procédé ici dans l'atelier qui a été breveté dans les années 80 par Michel Germont, cet artisan chez qui j'ai travaillé, qui nous permet de déposer les marqueteries des supports, les bois de plaquage, on les entoile avec des soies japonaises de l'extérieur, totalité de la surface. Ensuite, on les dépose du support. Et elle sort tout entière, un peu comme une fresque sur un mur. Et ensuite, on va à la source du mal, puisqu'on reprend les supports qui ont besoin d'être dressés, resserrés, remis aux dimensions. Et ensuite, on repose la marqueterie. Seulement quand on la repose, il faut la reposer sans usure des surfaces, pour compenser les différences de plaquage dans la marqueterie. C'est-à-dire que vous avez différents bois utilisés. Quand ils sont débités au XVIIIe siècle, ils ne sont pas débités d'une façon régulière. Si bien que quand ils les ont collé ou mis en place au 18e, ils l'ont mis à plat sans utiliser les presses que nous avons aujourd'hui pour avoir une planéité irréprochable. Donc il y a des bois qui sont un peu incrustés, un peu plus épais. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est reposer sans usure des surfaces. C'est-à-dire qu'on transpose la marqueterie extérieure qui est vue sur un plastique transparent. De cette façon, quand elle est mise à plat totalement, on compense les différences d'épaisseur du dessous par un mastic. Et ensuite, nous reposons sur le support la marqueterie, aussi bien sur une surface plate qu'une surface galbée. Et ensuite, après, nous déposons les plastiques. Nous les enlevons et tous les éléments sont au même niveau, ce qui nous permet de conserver la matière, les gravures et les couleurs du temps. Ça, c'est un des éléments importants de notre atelier. Aujourd'hui, on le fait et on le maîtrise totalement à 100%.
Oui, Henri Collet, vous m'avez fait découvrir quelque chose. Ce sont les châssis.
Les châssis amovibles.
Les châssis amovibles, réversibles.
Si on peut appeler ça comme
sur
ça.
Des fauteuils 18e. Racontez comment ça se passe.
Oui, alors on appelle ça des fauteuils à châssis, qui sont des sièges où les garnitures peuvent se déposer. Elles sont fixées à plat dans les feuillures. Pour les manchettes, elles sont fixées avec des petites vis, goujons, que l'on dévisse et que l'on enlève. Ce sont des garnitures dites de saison, puisqu'on changeait. Pour les périodes d'automne et d'hiver, le châssis qu'on enlevait, on remettait d'autres châssis pour le printemps et l'été. Alors bien souvent, des velours pour l'hiver et des soieries pour l'été. Et ce sont des sièges assez rarissimes.
Oui, c'est donc l'assise et le dossier et les accoudoirs qu'on enlève. Et on met des motifs différents selon la saison.
En effet, en effet.
Ah oui, c'est très cher.
Oui, ce sont des sièges qui valent toujours un peu d'argent. Déjà, il y a une très belle liberté d'expression de la part de l'artisan, du menuisier en siège. Ce qu'on appelle le rythme donné à un siège. C'est tout le côté esthétique, hein, l'art du siège. Et ensuite, après, alors soie, tissu, ou alors des fois clous, ou alors fil d'or, ou alors velours de gêne, velours gaufré. Voilà un petit peu tous les désirs qu'on pouvait et qu'on peut encore se faire pour certains amateurs. Mais ce sont en général des sièges dits d'amateurs, collectionneurs.
Ah oui, c'est ça.
Le beau siège de saison, oui, parce que ça varie. Premier prix d'un siège à châssis, ça vaut entre 2 et 3 000 euros. Et puis après, ça peut monter jusqu'à 150 à 200 000 euros, les sièges. Suivant leur provenance.
Oui, ce sont des œuvres d'art de collection.
En général, c'est ça. Oui.
Bon, mais sur ces belles paroles, on pourrait continuer des heures à commenter tout le travail qui est fait ici, toutes les œuvres aussi qui sont en attente de restauration ou restaurées. Mais déjà, nous avons un bel aperçu de votre atelier. Merci beaucoup, Henri Collet. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour toutes les restaurations à venir.
Merci, chère madame. C'était un plaisir de vous recevoir. À bientôt.